Sortie de boîte. Sortie de boîte, Gabriel Devecq.
L'histoire que vous allez découvrir est celle d'une réussite. Je vous assure, elle fait du bien à entendre. Peut-être même qu'elle va vous inspirer, vous donner, vous aussi, envie de lancer votre entreprise. Une histoire qui a démarré pour de bon il y a 13 ans et qui n'a pas fini de se poursuivre. Je me suis rendu pour la connaître, cette histoire, non pas dans un château de contes de fées, mais dans les locaux de l'entreprise Colorix à Neuchâtel, que dirige notre invité. Pas de poudre aux yeux, on a beau parler de mesures de couleurs, aucun pot de peinture à l'horizon, pas d'alambic qui traîne dans la pièce principale, mais seulement des ordinateurs dernier cri, en sommeil, dans la pénombre d'une fin de journée pluvieuse. Faut dire que les employés sont déjà partis. Le couloir vide qui mène au bureau du patron, notre invité, ressemble à s'y méprendre à celui d'un hôpital. Pour info, les lieux étaient ceux de Swisscom auparavant, entreprise dans laquelle notre invité a fait son apprentissage. Une fois assis au bout d'une grande table de réunion, j'écoute l'histoire captivante que ce Neuchâtelois de 38 ans me raconte durant plus d'une heure et demie. Alors on va essayer de vous la faire courte, promis, mais vous en verrez de toutes les couleurs. Bonsoir David Maurer.
Bonsoir.
Colorix, c'est l'histoire d'une conquête du monde à partir d'une idée simple, on peut le dire.
Oui, en effet, c'était l'idée de développer un petit appareil de mesure qui permet de mesurer la couleur pour les malvoyants que j'ai réalisé lors de mon travail de diplôme à l'école d'ingénieurs au Locle en 2003.
Alors tout commence au Locle, vous l'avez dit, votre travail de fin d'études, c'est pour devenir ingénieur en microtechnique et ça débouche donc sur cette petite boîte noire. Alors sans trahir de secret, vous avez fait fort hein, devant le jury, vous avez même obtenu la meilleure note mais avec un scénario particulier.
En effet, à l'école d'ingénieur, on vous demande de rendre un travail de diplôme et faire une présentation avec un minimum 6 slides PowerPoint. Et puis j'ai pris un risque parce que j'avais 4 experts lors de ma défense de travail de diplôme, puis un des experts était aveugle. Alors j'ai pris le risque de faire aucun slide et au fait j'ai réservé la salle dans les sous-sols de l'école d'ingénieur pour faire ma défense de travail de diplôme. Quand je suis rentré dans la salle, un des experts m'a dit alors vous allez nous en faire voir de toutes les couleurs. Et j'aurais répondu, écoutez, vous êtes mal barré, j'ai éteint la lumière et j'ai fait toute ma défense de travail de diplôme dans le noir complet. Donc j'ai parlé pendant 45 minutes. L'exercice était assez difficile d'amener une histoire succincte dans le noir. Et puis ils ont adoré, parce que je voyais pas pourquoi je devais leur montrer quelque chose sur un PowerPoint alors qu'il y a une personne dans le membre du jury qui ne voit rien.
Joëlle Picromain, notre collègue, elle n'était pas dans le noir. Malgré tout, elle est venue vous voir et puis elle a pu assister à la démonstration de ce premier appareil, son reportage.
Sortie de boîte.
On m'a demandé d'essayer de développer un appareil qui mesure la couleur pour les malvoyants. Et j'ai eu de la chance, toutes les idées que j'ai eues ont marché du premier coup, et en 8 semaines j'avais fait l'appareil de A à Z, donc c'était l'idée de faire un petit appareil portable, on pose sur les habits, et il parle, il indique la couleur, je peux vous le montrer là maintenant.
Alors ça c'est donc le premier appareil qui a été développé, c'est l'original, c'est celui qui a été présenté.
C'est Collector, c'est tout le premier, je vais le garder précieusement, c'est vraiment le tout premier appareil suite à mon travail de diplôme. C'est une grosse boîte noire, je pose sur une couleur, et puis il indique la couleur.
Vert.
Je peux vous poser sur mon pantalon aussi qui est beige.
Vert.
C'était quoi l'idée de départ de cet appareil-là?
C'était le directeur de la Fondation Suisse des Téléthèses à Neuchâtel qui était venu aux portes ouvertes de l'école d'ingénieurs. Puis quand il a vu ce que je faisais, il m'a dit « Mais écoutez, ça serait bien de développer ce genre de produit parce que les malvoyants, même s'ils n'ont jamais vu, ils savent qu'un pantalon rose fluo avec une chemise vert pétante, c'est peut-être pas terrible à porter. Donc de faire un petit appareil portable qui leur indique la couleur pourrait être bien utile pour eux. »
Comment ça marche? Comment cette petite boîte noire va nous dire que votre pantalon il est beige clair, que mon chemisier est noir?
Ce que j'ai développé, c'est qu'on éclaire la surface avec une source de lumière blanche qui essaie de correspondre à celle de la lumière du soleil. Ensuite, la lumière est réfléchie. Donc si je mesure quelque chose de rouge, j'ai pratiquement que le rouge qui va être réfléchi et tout le reste va être absorbé. Et ensuite, j'ai mis un capteur de lumière avec 3 filtres différents. Une partie a un filtre rouge, l'autre partie un filtre vert et l'autre partie un filtre bleu. Et avec ces 3 couleurs, on arrive à faire toutes les couleurs du monde. Donc si je mesure quelque chose de rouge, il y aura plus de lumière rouge qui passe dans le filtre rouge, donc j'aurai une information, attention, là j'ai beaucoup de rouge. En fait, si vous regardez un écran d'ordinateur ou une télévision avec un tube cathodique de très près avec une loupe, vous allez voir quoi? Un pixel, c'est au fait
une barre rouge, une barre verte et une barre bleue. Et avec ces trois couleurs, on peut faire les millions de couleurs qu'il y a sur un écran d'ordinateur ou une télévision.
Il y a cette première idée qui fonctionne. Il y a un marché avec les personnes malvoyantes qui ont testé, qui ont trouvé l'appareil utile. C'est ça qui vous a emmené dans le monde des couleurs pour la suite?
Alors effectivement, il y a un immense marché pour les malvoyants. Parce que j'avais fait une étude de marché. Il faut savoir qu'en Suisse et les pays qui entourent la Suisse, il y a quand même 10 millions d'aveugles et malvoyants. Donc les personnes qui, par exemple, une qui me disait, ben moi dans un magasin, je choisis un beau pull marine, et puis au fait, comme l'éclairage n'est pas très bon, ben une fois que je suis dehors, ben il est malheureusement violet. Donc c'est vrai qu'il y a un immense marché pour ça, de trouver vraiment la bonne couleur. Et je leur ai aussi demandé combien vous êtes prêts à payer pour ce genre de produit, et ils m'ont dit maximum 300 francs suisses. Et là, j'avais un peu un problème parce que je savais qu'il y en aurait au minimum pour 500 francs suisses. Donc je me trouvais face à un appareil qui risquait d'être trop cher, puis personne ne l'achète parce qu'il est trop cher.
Alors là, on est dans le vif du sujet. Votre appareil pour mesurer et annoncer les couleurs coûte trop cher pour ce marché des aveugles. Alors vous essayez de trouver du soutien, notamment auprès d'une entreprise du coin. Et là, on vous dit, lancez-vous.
Effectivement, j'avais débarqué une fois dans une société sans prendre de rendez-vous. C'est une société basée à Peseux qui s'appelait Axiom Alpha. Eux, ils font des têtes de lecture optique. Puis je me suis dit, je pourrais leur présenter le produit que j'ai développé à l'école d'ingénieurs. Eux, ça leur ferait un produit de plus après à vendre dans leur société. Puis le directeur a pris le temps de discuter avec moi. Il m'a dit, mais écoutez, vous avez un bon produit, pourquoi pas vous lancer vous-même.
Et ça, personne avant ne vous l'avait dit?
Non, alors vraiment, je regrette dans tout mon cursus scolaire et des études que personne ne nous explique comment créer une société. À l'école d'ingénieurs, on se dit, j'aurai une bonne formation, je vais sûrement trouver un bon poste, je vais bien gagner ma vie. Et il n'y avait vraiment aucun cours qui nous explique comment créer sa boîte. Aujourd'hui, c'est en train un peu de changer.
Donc là, il y a un problème de marché. Vous avez un bon appareil, une bonne idée. Il y a un entrepreneur qui dit « allez-y ». Mais pas simple, vous n'avez pas résolu la question du prix de vente. Vous avez du coup un problème. Vous lancez quand même.
Donc suite à cette rencontre avec les malvoyants, je me suis rendu compte que mon appareil c'est trop cher. J'ai commencé à réfléchir qui c'est qui a besoin de la mesure des couleurs. Tout de suite est venue l'idée des peintres en bâtiment. Et puis ayant appris beaucoup avec les malvoyants, je me suis dit je vais refaire un sondage auprès des peintres. J'ai questionné une centaine de peintres à travers toute la Suisse. Je leur ai demandé comment vous faites quand il y a un graffiti sur le mur, puis il faut essayer de retrouver la couleur la plus proche parce que vous n'allez pas forcément faire toute la façade. Puis c'est là que, suite au sondage, j'ai appris qu'ils passent en moyenne 20 minutes à chercher dans différents nuanciers la couleur la plus proche, que dans 90% du cas, ils ne trouvent jamais la bonne couleur, et qu'un petit appareil qui pourrait mesurer en un clic la bonne couleur, ça les intéresserait, ils seraient prêts à payer un maximum 1000 francs suisses pour ça.
Je parlais tout à l'heure d'une idée simple, ça a l'air tout simple de trouver la bonne couleur, apparemment ça ne l'est pas, ça dépend de plusieurs facteurs.
Oui, en effet, la perception des couleurs, elle dépend de trois facteurs. Le premier, c'est l'éclairage, la distance et la texture. Donc, je ne sais pas si on prend une façade qui est côté soleil, côté forêt ou côté d'une autre maison rouge, on aura la réflexion de l'autre maison de la forêt. La distance, plus on s'éloigne, plus la couleur allait être foncée. Et la texture, on perd de la lumière, ça fait des ombres.
Et ça, votre appareil arrive à le compenser?
Voilà, on compense ces trois facteurs, puis on arrive à avoir une mesure actuellement précise égale le type de texture.
Alors, votre entreprise, donc centrée autour de cet appareil Colorix, affiche déjà un joli chiffre d'affaires après 2 ans d'existence, sauf erreur 200 000 francs. C'est bon, à 23-25 ans, vous êtes déjà plein aux as?
Alors, pas vraiment. En sortant des études, vous ne gagnez pas vraiment votre vie. Je faisais des petits travaux. Je faisais barman le soir et puis la journée, j'avançais dans mon projet. J'ai emprunté à 25 ans 70 000 francs auprès de la fondation Finergence pour financer le début de mes 100 premiers appareils. Et après, c'est vrai que j'ai eu de la chance. Tous les 100 premiers appareils que j'ai créés ont été vendus après une semaine. Et après 2 ans, j'avais tout remboursé, mon prêt Finergence.
Alors, si les peintres s'arrachent votre appareil, qui mesure mieux que jamais les couleurs, on l'a bien compris, on n'a encore rien vu, j'ai envie de dire. Il y a le développement d'une application sur smartphone qui va véritablement doper vos affaires.
Alors, oui, on a sorti plusieurs générations de notre appareil de mesure de couleurs, puis on s'est rendu compte que les peintres demandaient de plus en plus de fonctionnalités. Alors, on avait le choix, soit ajouter plusieurs boutons sur notre appareil, et puis du coup, l'appareil devient de plus en plus compliqué à utiliser, ou alors, l'idée est venue, pourquoi pas mettre un module Bluetooth dans cet appareil, communiquer avec ses smartphones que tout le monde a dans la poche, et le jour où on a une nouvelle idée pour notre produit, on n'est plus coincé qu'un bouton mécanique, c'est juste une mise à jour gratuite de l'appli.
Et en reliant, en fait, votre appareil avec la technologie Bluetooth vers les écrans, vous êtes le premier au monde à le faire.
Apple nous avait confirmé qu'on était parmi les 10 premières sociétés au monde à avoir développé un accessoire Bluetooth pour l'iPhone.
Et ça, du coup, ça fait mouche auprès des grands fabricants, puisque Colorix s'impose assez vite, ou en tout cas assez logiquement, auprès des grands fabricants de peinture.
En effet, on n'a pas beaucoup de concurrents dans ce marché. On est peut-être maintenant 4 à proposer ce genre de produit, mais en fait, la plupart des autres concurrents, ils mesurent la couleur, c'est 100% de ce qu'ils font. Et puis nous, on s'est rendu compte qu'avec le smartphone, on peut la mesurer, l'appliquer, la communiquer. Et à nos yeux, pour un fabricant de peinture, mesurer, appliquer, communiquer, c'est ce qu'il leur faut pour réussir à vendre de la couleur.
Bon, ça a l'air tout simple comme ça, mais quand on va voir un grand fabricant de peinture, je sais pas, il est peut-être en Hollande ou en Allemagne, est-ce que par évidence, ils vous choisissent ou est-ce qu'il faut quand même convaincre, développer des arguments ?
Alors, en 2008, j'avais un rendez-vous avec l'un des plus grands fabricants de peinture au monde. La maison mère est en Hollande. Je vais les voir et ils me disent, écoutez, on a testé votre produit, c'est le plus petit, c'est le plus précis, c'est le moins cher. On va pas travailler avec vous. Vous êtes seul dans votre boîte. Qu'est-ce qui se passe si votre avion décide de descendre plus vite que prévu? Alors là, j'étais un peu au fond du trou dans mon avion de retour. Et puis c'est là que j'ai réalisé que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Puis j'ai réussi à convaincre plein de petits fabricants de peinture. Et ce grand groupe qui m'a fermé la porte en 2008, on a lancé son application iPhone il y a 2 ans en France.
Donc vous faites le bonheur des peintres, petits et grands, on l'a bien compris, des architectes aussi, des particuliers, hein, puisque votre application est sur smartphone, on l'a dit. Mais pas seulement, il y a aussi le secteur de l'horlogerie, hein, et ça tombe bien dans le canton de Neuchâtel et dans la région de l'Arc Jurassien, qui a trouvé de l'intérêt à utiliser votre produit.
Alors oui, il y a un peu plus de 2 mois, on a lancé une application iOS qui s'appelle Color Quality Control. En fait, elle vous permet de créer un groupe, le nom d'une marque horlogère, d'ajouter un produit. Et maintenant, avec notre nouvel appareil, le Color Catch Nano, vous allez pouvoir aller pointer juste sur une aiguille d'une montre, mesurer sa couleur et effectuer, programmer une tolérance. Donc ensuite, faire un contrôle qualité sur cette pièce. Une fois que vous reposez sur l'aiguille de la montre, ça vous affichera oui ou non, si vous êtes dans votre tolérance ou pas.
Et ça, finalement, c'est aussi pro-développement durable. Vous allez éviter des fabrications de pièces pour rien.
Effectivement, parce que par exemple, dans l'injection plastique, si quelqu'un doit livrer 10 000 pièces orange, 10 000 cadres orange à un groupe horloger, il travaille dans son entreprise, il n'a pas la bonne lumière, il risque d'envoyer 10 000 pièces et le client il dit mais c'est pas la bonne couleur et on remet tout à la poubelle. Tandis que là, il peut maintenant dormir tranquille, il mesure la couleur, ça dit oui, c'est bon ou pas et son client peut également contrôler en entrée.
Eh bien, l'horlogerie, on va y rester, David Maurer. Si vous excellez dans la mesure des couleurs, il y a un autre Neuchâtelois qui s'est illustré dans l'histoire et c'était pour la mesure du temps qui passe. C'est la chronique Pile à l'heure de Marie-Lise Saillard.
Pile à l'heure.
Je ne sais pas si vous connaissez le Best of Best. Le Best of Best, c'est une sélection annuelle d'objets d'exception réalisés par le magazine américain Rob Report. Et dans la dernière sélection de ce magazine, 6 montres hommes sont distinguées, dont la Memoris des ateliers Louis Moinet installée dans le canton de Neuchâtel à Saint-Blaise. Louis qui ?
Louis Moinet, c'était un horloger qui était de son vivant, 1768-1853, un des horlogers les plus célèbres. Il était très humble, très modeste, donc malheureusement il était complètement oublié. Donc ça fait une petite quinzaine d'années qu'on a décidé de relancer son nom, de le faire reconnaître. Et durant ce parcours, on a trouvé une pièce qui a changé le cours de l'histoire et qui s'est avérée être le premier chronographe jamais réalisé.
Merci à Jean-Marie Chalère, le directeur de la marque, pour cet éclairage. Du coup, on va en profiter pour lui demander des détails sur l'invention de cet horloger français.
C'est une pièce absolument extraordinaire parce que non seulement c'est le premier chronographe, mais également c'est le premier objet de haute fréquence, 216 000 vibrations par heure. Il est également l'objet le plus précis de son temps, 60e de seconde, et puis il a un retour à zéro, qui a une fonction qui était inconnue jusque dans les années 1850. J'ai oublié de vous préciser que Louis Moinet avait inventé le chronographe pour ses observations astronomiques. Il voulait garder l'œil sur le transit des astres tout en ayant l'occasion de pouvoir actionner son chronographe librement sans pour autant le regarder.
La montre Memoris distinguée par le Best of Best, qui rend hommage à Louis Moinet et au tout premier chronographe de l'histoire, existe en 2 éditions limitées à 20 exemplaires chacune, or blanc ou or rose. Et pour vous la payer, il faut soit avoir une très très grosse tirelire à casser, soit des amis très très généreux qui se cotisent pour votre anniversaire. Ou alors, vous pouvez toujours essayer de braquer une banque.
Pile à l'heure.
On a l'impression, David Maurer, que comme Louis Moinet, vous êtes parti pour vous faire un nom. Est-ce que vous allez marquer l'histoire avec votre colorimètre Bluetooth ?
Alors, on ne sait pas si on va marquer l'histoire, mais en tout cas, c'est bien parti. On arrive à convaincre de plus en plus de grands groupes dans différents secteurs et marchés, et ça devient très intéressant.
On a parlé de la peinture, on a un petit peu oublié les aveugles. Il y a le cosmétique, l'industrie du cosmétique qui s'intéresse de très près à vous. Et d'ailleurs, vous venez d'annoncer une nouveauté assez marrante.
Oui, en fait, ça risque de devenir notre plus gros marché. On n'aurait même pas pensé à ça au départ, mais en fait, on s'est associé avec une société basée en France qui a développé une machine à teinter. Et à Paris, il y a 2 semaines, on a fait un salon de la cosmétique. Plein de femmes sont passées devant nous et en fait, ils sont arrêtés à notre stand. Et avec notre appareil, on a mesuré un sac à main ou une chaussure. Et notre appareil est maintenant connecté à cette machine à teinter. Et en 3 minutes, la machine, elle est capable de produire le tube de vernis à ongles avec exactement la même couleur que le sac à main.
Ouais, on devine le potentiel économique au niveau du marché. C'est pas tout. Vous intéressez aussi au domaine médical, de la santé, avec notamment une application dans le domaine de la dermatologie.
Ouais, alors on avait fait également un appareil qui permet de mesurer la mélanine et l'érythème, c'est au fait la rougeur et le ton de brun de la peau. C'est pour les personnes qui ont des problèmes de dépigmentation de la peau, puis c'est bien utile aux dermatologues de connaître ces deux valeurs.
Alors, il y a de quoi avoir le vertige quand même au niveau des débouchés de votre invention. Hein. On part d'une petite boîte noire et on arrive à séduire des marchés aussi importants que la peinture, le cosmétique, la santé. Est-ce que vous n'avez pas le vertige? Est-ce que c'est possible de poursuivre tous ces lièvres à la fois?
Alors, quand vous faites des cours de jeunes entrepreneurs, on vous dit qu'il faut faire attention quand on a plein de marchés verticaux, donc des différents marchés qu'on vise. Il faut en général pas s'attaquer à tous en même temps parce qu'on risque de se planter. Mais là, l'avantage, c'est que l'appareil reste le même, c'est juste le soft qui change. Et je pense qu'on a moyen de gérer tous ces marchés en même temps.
Alors, ces marchés qui voient le jour aujourd'hui grâce à votre travail, c'est une chose, c'est le succès. Mais pour arriver là, est-ce que vous avez sacrifié votre vie?
Alors, c'est vrai que les premières années, on ne se paye pas beaucoup. J'ai jamais pris de vacances les 3 premières années. Je bossais le week-end. C'est beaucoup d'heures. Et maintenant, après 10 ans, on peut engager des personnes. Et puis j'arrive maintenant à déléguer. Et puis je peux enfin prendre congé le week-end et puis m'attribuer 2 semaines de vacances par année.
Donc Colorix, on parle d'employés, c'est 10 employés, une dizaine d'employés.
On est une dizaine d'employés, c'est la majorité des ingénieurs en informatique, en électronique. Et puis on se concentre vraiment sur le développement software et hardware de nos produits.
Et c'était 200 000 francs en 2005 de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, un ordre de grandeur?
On a chaque année fait un peu plus, mais je ne communique pas ce chiffre-là.
Par contre, vous pouvez communiquer peut-être le nombre d'emplois que vous générez dans le canton de Neuchâtel ou dans l'arc jurassien, avec la sous-traitance notamment?
Alors nous, on a à peu près 10 dans la société, puis en fait, on se concentre vraiment, comme j'ai dit, dans le développement software et hardware, et on donne toute la production à des sous-traitants de la région. Donc on peut dire qu'il y a à peu près une quarantaine de personnes qui travaillent pour nous en sous-traitance pour produire nos appareils.
On voit les débouchés, on en a parlé. Est-ce que les industries de la région ou les entreprises de la région seront suffisantes pour supporter une explosion des ventes, par exemple?
Alors, les sous-traitants actuels qu'on a choisis nous ont plus ou moins confirmé qu'ils arriveraient à en produire 1 million par année si ça devait exploser. Donc, si on arrive à ça, ça serait fantastique. Et puis, l'avantage d'être aussi avec des sous-traitants locaux, c'est qu'on parle la même langue. S'il y a un problème, on est à 30 minutes de route et puis on peut régler le problème le jour même.
Et tandis que vous êtes en train de viser des marchés globaux, est-ce qu'on ne risque pas de vous voir émigrer dans la Silicon Valley?
Pour le moment, pas. Le but, c'est de développer sur Neuchâtel, puis de continuer de faire marcher ce canton.
David Maurer, on a commencé cette histoire à l'école du Locle, où vous avez sorti cette première invention. Aujourd'hui, donc, vous êtes à la tête d'une entreprise qui fonctionne. Est-ce que ça veut dire qu'il y a du potentiel à la sortie des écoles? Est-ce qu'il y a d'autres Colorix qu'on ignore, qui n'ont pas vu le jour ou qui pourraient voir le jour?
En sortant de l'école d'ingénieur en 2003, je me suis rendu compte qu'il y avait à mon avis 2 projets qui ont un potentiel de business. Puis je trouvais justement dommage qu'on vous dise, maintenant il faut chercher du travail et puis la bonne idée reste dans le tiroir de l'école. Donc, je ne vais pas prendre mon cas comme un exemple, mais si on regarde aujourd'hui, j'aurais pu prendre la place d'un ingénieur dans le canton, mais maintenant on a une dizaine de personnes qui travaillent chez nous, plus une quarantaine de personnes dans la sous-traitance. Donc à mon avis, rien qu'à l'école d'ingénieur du canton de Neuchâtel, il y a chaque année deux projets qui ont un potentiel de business, puis il faut réussir à faire ce pont entre les hautes écoles et l'industrie.
Et vous militez pour ça?
Oui.
David Mourer, merci beaucoup d'être venu nous voir à Sortie de Boîte, d'être sorti de votre boîte un moment. On vous souhaite bien sûr bonne route avec Colorix. On suivra les développements de cette entreprise.
Merci pour votre invitation, c'est un plaisir.
Avec joie, la semaine prochaine, on reçoit Elmar Mock, le décapant créateur de la Swatch. Aujourd'hui, il dirige sa propre entreprise, Créaolic. Elle est basée à Bienne. Sa mission, vous l'entendrez, c'est de trouver des idées et surtout les concrétiser. Tout un programme. Allez, à bientôt. Sortie de boîte.